serait donc dommage de regarder avec dédain le Christ mexicain en le considérant comme un mythe ou une idole. Il nous faut donc revaloriser ses principes. C'est ce que nous allons faire. Ces principes christiques universels sont en fait la vie qui palpite en chaque atome, comme elle palpite en chaque soleil. Comprenons que le logos peut être vu de différentes manières, que ce soit sous l'angle hébraïque ou sous l'angle égyptien. Nous allons donc l'étudier à la lumière du Mexique archaïque. Quetzalcoatl, en tant que Christus, en tant que Vishnu, en tant que logos, est le Verbe. C'est la parole qui a donné vie à cet univers. Cette force extraordinaire est latente à l'intérieur de nous. Nous avons dit tout à l'heure que c'était une semence, c'était un germe, effectivement, qui attend de grandir à l'intérieur de nous. Nous pouvons dire simplement qu'il y a à l'intérieur de nous la possibilité de l'incarner. Cette possibilité, c'est notre choix. Le choix de nous définir à chaque instant pour nourrir une vie verticale. Dans sa partie humaine, la vie de Quetzalcoatl est la vie de tous les êtres humains. C'est l'histoire d'un homme qui est tombé dans la tentation, qui s'est enivré de vin, qui a perdu tous ses pouvoirs, qui a dû abandonner ses palais merveilleux. Cela nous rappelle la sortie du jardin d'Éden. C'est donc d'une certaine manière l'histoire de l'humanité qui souffre et qui pleure et qui parcourt les chemins du monde en quête de rédemption. Ainsi, le Christ mexicain a montré dans sa chair que oui, il a ressuscité d'entre les morts. Il a resplendi glorieusement dans l'espace infini. Car il est gloire, il est lumière et il est sapience. Ce mot de sapience est important. Elle nous fait comprendre tout le chemin parcouru pour extraire la lumière, pour délivrer la lumière. C'est ainsi que ce drame est grandiose, car nous avons dû abandonner le jardin d'Éden, parcourir la face de la terre pour finalement remonter jusque là d'où nous sommes venus. Avec une connaissance, une sagesse spéciale, nous allons dire une sapience. Oui, nous avons quitté le merveilleux Éden. Oui, nous sommes sortis du jardin des Hespérides. Oui, nous avons abandonné les Champs-Élysées égyptiens. Et oui, nous suivons ce guide intérieur, universel, individuel, intime, dont le nom est Quetzalcoatl. Et il enseigne à tous les êtres humains sa doctrine, celle de la libération. Nous pouvons voir des représentations archéologiques où nous voyons la croix que porte sur ses épaules Quetzalcoatl. Cette croix nous enseigne bien sûr les mystères alchimiques transformant un être humain en autre chose, en un mutant. Car oui, en effet, le Christ mexicain a enseigné les mystères de l'alchimie, ceux qui permettent à un homme et à une femme de s'unir merveilleusement, amoureusement, et de permettre à leur semence individuelle de se muter, de se transmuter. Car oui, ces êtres humains de l'ancienne terre du Mexique se reproduisait grâce au don de Kriya Shakti. Car en effet, les couples de l'ancienne terre du Mexique pratiquaient les mystères de l'époque du Jardin d'Éden. Ces mystères nous sont accessibles. Certes, psychologiquement et dans notre corps, nous sommes sortis du Jardin d'Éden. Nous avons quitté les Champs-Élysées. Mais nous connaissons la manière dont nous pouvons reconquérir le droit d'entrée dans ce jardin d'Éden, c'est-à-dire développer à l'intérieur de nous un art de vivre qui est l'art de vivre de ces habitants du jardin d'Éden. Car lorsque nous vivons sur une terre sacrée et que nous en avons conscience, alors nous prenons soin de notre corps, nous prenons soin de notre semence et nous permettons à ce germe vivant à l'intérieur de nous de se développer pour nous transformer radicalement et reconquérir l'état que nous avons perdu il y a bien longtemps. À l'image de l'humanité, Quetzalcoatl nous raconte López Portillo, est arrivé devant les Toltecs comme un naufragé qui sortait de la mer, comme un naufragé. Et il est venu pour enseigner au peuple Toltec la manière de se diriger à nouveau vers la terre de leurs ancêtres, vers la terre de leurs aïeux, afin d'obtenir à nouveau la lumière et la splendeur. C'est le message que Quetzalcoatl a délivré, a enseigné, lorsqu'il est retourné sur les terres du Mexique à l'époque des Toltecs. Nous voyons donc cette force extraordinaire, christique, s'incarner à chaque fois que l'humanité en a la nécessité. Elle s'incarne à nouveau pour inlassablement répandre ce message d'espoir, de rédemption, ce message révolutionnaire qui permet à tous les êtres humains qui le souhaitent de pouvoir reconquérir l'état paradisiaque que nous avons perdu autrefois. Nous allons marquer une pause musicale et nous revenons dans quelques minutes.
Chers frères et sœurs gnostiques, pour la semaine sainte, nous aurons le privilège d'assister en direct aux vidéoconférences organisées par le Temple Roi Lumen des Illuminés. La conférence d'ouverture de la semaine sainte sera le mercredi 8 avril à 21h, heure de Paris. Veuillez noter qu'en raison du décalage horaire, nous aurons les conférences du matin à 16h chez nous, heure de Paris, et les conférences de l'après-midi à 21h, heure de Paris. Ainsi, pour le jeudi, le vendredi et le samedi, nous aurons accès à deux vidéoconférences journalières, une à partir de 16h, heure de Paris, et l'autre à partir de 21h, toujours heure de Paris. Bien entendu, une traduction simultanée sera proposée. Nous terminerons la semaine sainte par une dernière conférence, dimanche 12 avril, toujours en direct, avec notre bien-aimé maître Aaron, qui interviendra à partir de 16h, heure de Paris. Ainsi, nous vous souhaitons une très bonne semaine sainte à l'écoute de notre radio Himalaya. À bientôt.
Nous voici donc de retour pour la suite de cette conférence au sujet de la Semaine Sainte sur le thème du Seigneur Quetzalcoatl, du Christ mexicain. Nous nous appuyons sur l'œuvre du citoyen président José López Portillo intitulée Quetzalcoatl, ainsi que nous l'a conseillé le vénérable maître Samael. Cette œuvre littéraire très inspirée nous dévoile de quelle manière le Christ mexicain Quetzalcoatl, le serpent à plumes, s'est rendu sur la terre des Toltecs, comment il a enseigné à ce peuple un chemin nouveau et radical. Ainsi, le Seigneur Quetzalcoatl amène au peuple Toltec des secrets anciens qui viennent de la terre des ancêtres, c'est-à-dire du Mexique antique, archaïque. Le Seigneur de Lumière apparaît comme un naufragé sortant de la mer, apparaissant au peuple Toltec comme une image de cette humanité qui est en perdition, en souffrance et qui a besoin d'être sauvée. Il vient donc réactualiser les mystères anciens qui viennent de l'antique terre mexicaine. Nous verrons qu'au terme de cette incarnation, de cette mission, dans un corps physique, le maître Quetzalcoatl devra alors repartir, laissant le peuple Toltec avec certaines prophéties qui annoncent l'arrivée future par la mer d'un peuple qui lui-même est dans un naufrage spirituel et qui va amener beaucoup de souffrance au peuple Toltec. Effectivement, lorsque les marins espagnols débarqueront sur les rives mexicaines au XVIe siècle, ils apporteront beaucoup de désolation et de ravages. Ils ne profiteront pratiquement pas des trésors de sagesse dont a bénéficié le peuple toltèque en se régénérant grâce au message du dieu Quetzalcoatl incarné parmi eux. Le peuple toltèque vivait au centre du Mexique vers l'an 1000. C'est à ce moment-là que s'est développée cette civilisation. Leur capitale s'appelait Tula. On peut ajouter que le terme toltèque provient du nahuatl et désigne les maîtres bâtisseurs. En effet, le maître Samael nous dévoile que les Toltèques ont vraiment été des maîtres bâtisseurs tirant toute leur science de leur dieu Quetzalcoatl, qui est venu leur enseigner et les civiliser en leur apportant toutes les techniques dont ils avaient besoin pour se développer et que ce peuple puisse devenir une civilisation. En effet, Quetzalcoatl a enseigné aux Toltèques tous les arts. Il leur a appris à cultiver la terre, à semer du coton et aussi du maïs. Et il leur enseigna aussi la science des mathématiques et de l'astronomie. On peut dire qu'ils étaient des civilisés au plus haut point. Ainsi, Quetzalcoatl apparaissait comme un dieu, mais aussi comme un roi, car on a reconnu sa propre humanité. C'était donc un dieu incarné. Et en tant que dieu vivant, il a pu donc enseigner, diriger, civiliser tout un peuple. Les Toltèques ont donc laissé dans l'histoire les traces d'un peuple extrêmement sophistiqué, rempli de connaissances extraordinaires, une civilisation brillante. Ainsi, leur agriculture, leur art et leur science n'est pas exactement le résultat d'une recherche longue à travers les siècles, mais plutôt la transmission par révélation. En très peu de temps, la civilisation toltèque a surgi et a construit des pyramides. Ainsi, ce peuple toltèque qui a accepté la doctrine du roi Dieu Quetzalcoatl a pu finalement accéder à la justice, à la science, à l'abondance, car la doctrine quetzalcoatlienne n'admet pas la misère, ni la faim, ni l'ignorance, ni les maladies, et encore moins la désolation. Elle veut l'équité et la justice distributive. Nous pourrions faire un parallèle avec le livre La République, écrite par Platon, dans laquelle règne une véritable démocratie dirigée par des hommes éveillés. La sagesse de Quetzalcoatl n'est pas seulement religieuse, mais elle est aussi politique et économique. Dans leur capitale, Tula, ils construisirent une immense pyramide, ce qui est la démonstration d'une immense connaissance de l'architecture. Cette pyramide est certes un lieu de culte, mais aussi un lieu d'enseignement, un lieu d'apprentissage, dans lequel étaient enseignés et dévoilés les mystères de l'ancien Mexique. Quand nous disons l'ancien Mexique, nous voulons parler vraiment d'une terre archaïque, très sacrée, extrêmement ancienne. Quand l'Amérique du Sud n'avait pas encore surgi, elle était cachée au Quand elle était cachée au fond de l'océan, quand l'Amérique centrale n'était pas encore parue sur la carte, le Mexique existait déjà. Maître Samuel nous dit que lorsque le Canada, l'Alaska et les États-Unis n'avaient pas encore surgi des fonds abyssaux de l'océan, le Mexique existait déjà. Les navigateurs phéniciens, durant l'Antiquité, avaient traversé tout l'océan et étaient parvenus jusqu'aux terres du Mexique. Et dans ces terres mexicaines, les voyageurs phéniciens ont importé du bois, l'amenant jusque en Méditerranée, et ce bois a servi à l'édification du temple de Jérusalem. ici, vraiment, nous le voyons, le Mexique est une terre archaïque très sacrée. Et lorsque le peuple toltèque, sous la direction de Quetzalcoatl, a entrepris la construction de la grande pyramide de Tulé, c'était évidemment pour pouvoir transmettre des enseignements d'un passé extrêmement lointain. Car le Christ de Quetzalcoatl est le dépositaire de la sagesse des siècles, de la sagesse de l'univers. Il a donc transmis des enseignements immémoriaux qui appartiennent à l'éternité. Il n'a pas simplement transmis un enseignement initiatique individuel, mais aussi un art politique, économique, architectural, permettant véritablement de lever un peuple, de faire surgir une civilisation serpentine, capable de survivre durant des siècles. À cette époque, les conquistadors espagnols n'étaient pas encore arrivés dans ces terres. Ainsi, toute vie était respectée et le peuple toltèque possédait une organisation politique parfaite que aujourd'hui on ne soupçonne pas encore le moins du monde. Le peuple vivait dans l'ordre merveilleux d'Anahuac. La vie sociale, telle qu'elle était organisée à cette époque, c'est tout un idéal pour nous. Nous avons beaucoup à apprendre de ce peuple toltèque. Les sages d'Anahuac, les sages toltèques, les sages des pyramides antiques de Teotihuacan, enseignèrent vraiment aux gens la manière de vivre avec une sagesse à l'intérieur d'un ordre politique extraordinaire. Pour atteindre le même niveau de développement, il nous faudrait une véritable révolution sociale pour atteindre le même niveau que les Toltecs. Finalement, la civilisation toltèque arriva à un maximum, puis elle se mit à décliner. Le dieu Tezcatlipoca apparut et commença son œuvre. Il est le miroir de Quetzalcoatl. Il est son inverse. C'était le moment pour les Toltecs de démontrer qu'ils pouvaient vaincre à l'intérieur de C'était le moment pour les Toltecs de démontrer qu'ils pouvaient vaincre à l'intérieur de Tezcatlipoca. Mais cela en était fini de Tulé. L'aspect mauvais de la nature et de la nature humaine était revenu pour marquer la fin d'une puissante civilisation. C'était alors le moment pour Quetzalcoatl de partir. Il affirma donc que « Pour moi aussi, c'en est fini, le serpent se mord la queue. » Finalement, le seigneur de lumière Quetzalcoatl s'éloigna peu à peu du peuple toltèque, regagnant la mer comme un naufragé. Il laissa cependant quelques prophéties assez terribles en ce qui concerne le futur du peuple toltèque. Il annonça aux Toltecs que viendraient des hommes blancs et barbares qui les réduiraient en esclavage et qui les détruiraient. Ainsi donc, le soleil des Toltecs se cacha, il s'enfonça, mais Quetzalcoatl prophétisa qu'un jour, il reviendrait et que ce soleil des Toltecs ressurgirait. Et c'est ainsi que le président López Portillo, dans son œuvre littéraire Quetzalcoatl, raconta que le seigneur emplumé se fit construire une croix, qu'il la mit sur un radeau et qu'il fut attaché à cette croix. Et à la fin, le radeau fut enlevé par les vagues, loin, très loin, à travers la mer orageuse. Nous pouvons dire que le terrible serpent à plumes Quetzalcoatl doit venir un jour dans notre cœur. Il doit revenir. Nous ne l'attendrons pas en chair et en os, mais plutôt nous attendrons ici, à l'intérieur, au fond de notre âme. Car Quetzalcoatl, en réalité, et en vérité, il est le Logos, il est l'intelligence créatrice de l'univers. Sur ces mots, nous terminons cette réflexion du Seigneur Quetzalcoatl à propos des mystères de la Semaine Sainte. Merci de votre attention. Au revoir.
Vous écoutez Radio Himalaya, ne partez pas, Nous allons vous retrouver pour une nouvelle.